Bonjour, c'est Fabien Paquereau et bienvenue dans Papodcast, le nouveau podcast Acoustis où l'on se retrouve entre enseignants formateurs de lycée agricole pour partager nos expériences pédagogiques avec, voire moins, de numérique. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de café ou de thé ou laissez tomber la tasse, mais laissez-vous transporter, inspirer par les récits de nos collègues.
Nous voilà pour ce quatrième épisode de Papodcast et nous sommes in situ dans un lycée agricole avec Laure qui va aujourd'hui nous parler de la classe ouverte. Certains, certaines parlent aussi de classe flexible, mais nous allons prendre ce moment ensemble pour faire le tour du sujet et s'enrichir de l'expérience de Laure. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors Laure, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire dans quel établissement tu es, ta matière, etc.
Donc, je suis enseignante de mathématiques au lycée professionnel agricole Edgar Pisani, en 49, à côté de Saumur. J'ai débuté l'enseignement en septembre 2017, en enseignant, on va dire, les sciences de façon générale. Puis, progressivement, j'ai passé le concours du PLP à mathématiques, physique, chimie, et j'ai choisi de me spécialiser dans l'enseignement de ces deux disciplines auprès d'élèves issus principalement des classes de 3e et bac pro enseignement agricole. Je dois dire que ces derniers n'étaient pas particulièrement motivés par l'apprentissage des sciences en général et notamment des mathématiques ou de la physique-chimie. En fait, on peut constater que ces matières sont souvent considérées par les élèves comme des matières élitistes et trop compliquées à comprendre pour eux. Donc, je me suis ainsi rendu compte que la maîtrise disciplinaire ne suffisait pas à transmettre mon savoir avec efficacité et qu'il me fallait acquérir des connaissances dans la didactique pédagogique afin de faciliter l'engagement des élèves dans ces disciplines. Et puis à cela, le public qu'on accueille en lycée agricole professionnel, ce sont souvent des élèves qui portent un lourd bagage de difficultés, parfois sociales, parfois cognitives. Le nombre d'élèves en classe est de plus en plus important et les volumes horaires accordés, notamment en mathématiques et à la physique-chimie, ne sont pas suffisants au regard des difficultés rencontrées par les apprenants. Donc au regard de ce contexte, il n'est pas toujours évident et il faut trouver un moyen d'amener les élèves à atteindre les objectifs de formation visés par les référentiels. Et je pense qu'il y a également d'autres enjeux que les objectifs de formation, comme par exemple le climat scolaire qui doit être amélioré afin de donner envie aux élèves de venir à l'école, leur montrer que l'école peut être un endroit où on prend du plaisir à apprendre, voilà, c'est très important. Et afin d'améliorer ma manière de construire, de mettre en œuvre et d'animer des situations d'apprentissage, j'ai suivi la formation de la classe autonome réalisée par Julie Nanquetin-Rault, qui est auteure du livre « La prof qui murmure à l'oreille des ados ». Cette formation, elle fut pour moi un gain d'inspiration pour la construction de mes séquences pédagogiques. Et ajouté à cette formation, je me suis engagée à découvrir des filières d'où viennent la plupart de nos élèves, et notamment les filières SECPA. En effet, on accueille de plus en plus d'élèves venant de profils SECPA et leur accompagnement dans nos structures passe par, à mon sens, une compréhension des parcours qui a été envisagé et suivi par ces derniers. C'est pourquoi j'ai réalisé une immersion dans ces classes-là. Et j'ai pu ainsi échanger avec des professionnels et découvrir la flexibilité qu'ils mettent en œuvre dans leur enseignement quotidien. Et donc, au gré des expériences que j'ai eu l'opportunité de réaliser, des élèves que j'ai pu accompagner, des difficultés que j'ai pu rencontrer, j'oriente désormais mon enseignement vers un enseignement qui vise à faire d'abord développer l'autonomie des élèves au travers d'une certaine flexibilité. Et j'ai la conviction que les élèves peuvent mieux apprendre s'ils ont la possibilité de s'organiser de manière autonome. Par ailleurs, sa flexibilité, elle est déjà beaucoup mise en œuvre en école élémentaire, mais également dans certains collèges et lycées. Et en lycée agricole, il y a des enseignants, notamment au LECTA agricole d'Aurillac, on a Magali Rambert-Buguilla et Sarah Magne, qui ont récemment publié un ouvrage Éducagri sur la classe flexible. Et donc, c'est donc dans ce contexte que je développe la mise en œuvre de l'enseignement autonome et de la classe flexible au lycée Edgar Pisani à Montreuil-Bellay, dans l'enseignement des mathématiques, en étant porté par l'objectif de faire aimer les maths aux élèves.
Merci Laure pour cette présentation bien détaillée. Donc c'est vrai qu'on parle de classe flexible ou classe ouverte. On peut considérer que pour l'instant c'est un petit peu la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en fait qu'est-ce qu'une classe flexible ou classe ouverte dans tes pratiques à toi ?
Alors moi, dans mes pratiques, la flexibilité, elle va passer par déjà la posture de l'enseignant qui va changer. On n'est plus dans une posture où l'enseignant transmet le savoir de façon descendant et où le savoir doit passer uniquement par l'enseignant. Mais l'enseignant change de posture et devient un guide, un accompagnement dans l'acquisition d'apprentissage par les élèves. La flexibilité, elle va passer aussi par la flexibilité des supports, par la flexibilité des tâches réalisées par les élèves et la flexibilité de l'environnement, puisque les élèves peuvent choisir de travailler seuls ou à plusieurs en îlot de façon collaborative ou individuelle. Et dans ma pratique, je construis donc des séances dans lesquelles les élèves vont réaliser en majeure partie des ateliers autonomes, donc c'est-à-dire de façon autonome, des ateliers où ils vont manipuler et donc où l'apprentissage des mathématiques va passer par la manipulation en fait.
Ok, donc si je comprends bien, en fait, tu as préparé en amont plusieurs ateliers, voilà, et les élèves choisissent ces différents ateliers.
Alors, dans la pratique, une séance de cours se passe avec par 15-20 minutes de cours, 15 minutes de cours à peu près, voire parfois un petit peu moins. Une évaluation numérique qui sert à ancrer le savoir, puis des ateliers autonomes qui sont construits autour d'une feuille de route qui sert à guider les élèves. Cette feuille de route référence l'ensemble des ateliers à réaliser pour l'ensemble de la séquence et on passe par la variation des ateliers, c'est-à-dire pour éviter d'avoir une certaine routine, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des ateliers QR code, des ateliers manipulation, des ateliers exercice, plancher face à, voilà, donc des ateliers où les élèves vont manipuler, mais pas que, hein. Parfois on peut passer aussi par l'écrit, on peut rester sur des choses classiques, mais somme toute la posture de l'élève va également évoluer.
Et donc là, le rapport au numérique, là, ce que tu as parlé un petit peu de QR code, par rapport à toi, en fait, à ta préparation, est-ce que l'outillage numérique a vraiment été un atout ?
Ah oui, totalement. L'outillage numérique, c'est un plus et il y a encore des pistes à améliorer. Dans ma pratique, donc j'ai beaucoup d'ateliers QR code qui renvoient des applications comme Learning Apps, par exemple, sur laquelle plein d'enseignants en fait, qui viennent de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole peuvent déposer des ressources numériques en ligne. Donc après, avec par exemple la digitale, on peut éditer des QR codes que les élèves peuvent scanner et qui les renvoient à un atelier numérique. De même que si je veux leur faire visionner une vidéo, pareil, grâce à la digitale, je peux convertir un lien HTTPS en QR code. J'utilise également Plickers comme outil numérique pour réaliser des petites évaluations formatives régulières à chaque séance. Alors la première évaluation, j'essaie de faire des évaluations positives, une première évaluation qui nous serve à revenir sur l'erreur, parce que c'est par l'erreur qu'on apprend. Et puis la deuxième évaluation où on met une note positive en général puisque cette éval se base sur la même éval que précédemment réalisée. Donc si l'élève écoute le cours et est attentif lors des évaluations Plickers, en général il a des bonnes notes, ce qui lui permet aussi de s'engager positivement dans l'apprentissage des mathématiques. Et puis après, en autre piste que j'y vois d'amélioration, donc on a des super outils comme les Padlet par exemple, qui sont des murs collaboratifs que certains enseignants utilisent déjà dans leur pratique pour favoriser la collaboration entre les élèves et puis pour laisser une trace numérique aussi aux élèves pour continuer à réaliser les ateliers autonomes chez eux. Le Padlet peut être un outil utilisé. Après, on a aussi Pronote qui est un très bon outil très performant qu'on peut utiliser nous en tant qu'enseignants et les élèves également.
Ok, donc c'est vrai que tu as parlé de la digitale, Plickers, etc., tous ces outils dont certains, on a déjà fait des canaux SOS sur Acoustis, voilà, donc on dit des canaux SOS parce que c'est son nom, voilà, ça fait toujours un peu bizarre.
Alors excuse-moi alors, mais je vais faire une petite parenthèse, nous sommes au CDI là, tous les deux, mais juste à côté, là, dans une salle, c'est un peu le feu, la folie en fait, au lycée de gare Pisani. Je vais essayer d'ouvrir la porte discrètement pour ne pas les perturber et vous faire écouter ce qui se passe.
On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais.
Voilà la petite pause méridienne donc au lycée Edgar Pisani. Nous allons revenir sur notre sujet et rejoindre Laure tout de suite.
Est-ce que tu as une anecdote, enfin un moment qui a vraiment été satisfaisant pour toi en fait, avec cette nouvelle façon de travailler avec les élèves ?
On va parler de cette année en classe de seconde. Donc, je suis arrivée dans un établissement où les mathématiques sont mal aimées par la plupart des élèves des filières bac professionnelles. Donc il y a un vrai défi de faire aimer ces mathématiques aux élèves. Et ça passe aussi par leur donner confiance en eux et leur montrer qu'ils peuvent réussir dans cet enseignement. Donc en seconde bac pro, premier chapitre, j'aborde notamment la proportionnalité et les pourcentages. Bien que ces notions en mathématiques doivent être abordées sous la forme d'automatisme, je fais le pari qu'il faut aussi savoir s'engager sur des notions qui sont vues de façon transversale, notamment dans les modules professionnels. Je prends le temps de revoir ces notions-là en début d'année et on va parler d'une élève que j'appellerai Jade. Pour qui ça a tout débloqué et qui m'a fait la plus belle des réflexions. C'est « Madame, j'ai enfin compris, merci pour cette séance ». Et en fin de compte, elle avait juste réalisé un atelier de manipulation sur les pourcentages où il fallait associer un jeu de domino avec des pourcentages d'augmentation, des pourcentages de diminution. Donc finalement, faut aussi revenir sur le fait que les maths, parfois, pour que les élèves comprennent, faut passer du concret à l'abstrait. Il faut vraiment passer aussi par cette étape de manipulation. Et là, ça va lever souvent pas mal d'obstacles.
Ok, et donc ça veut dire que tu crées toi aussi tes propres outils, tes outils pédagogiques, et tu utilises des jeux, enfin là tu viens de parler de domino, de QR code, etc. Donc tu as déjà créé enfin des jeux ou des cartes?
Oui, je crée pas mal de jeux. Alors c'est vrai que chez nous les enseignants ça révèle aussi ce potentiel de création. Finalement, on aime tous en général. Donc oui, des jeux de domino, c'est assez fréquent en mathématiques. Le jeu du qui est-ce aussi peut être retravaillé. Donc par exemple, alors ça c'est pas ma ressource, mais j'ai trouvé une rose parce qu'il y a des super enseignants qui créent aussi des super ressources et parfois il faut savoir les utiliser. Donc un qui est autour des intervalles en mathématiques pour pouvoir, pareil, que les élèves s'approprient. On peut aussi utiliser le qui est avec des formes géométriques aussi. On peut utiliser des jeux de cartes pour, pareil, valider en mise à niveau. Moi j'utilise des jeux de cartes avec des questions sur à la fois la proportionnalité, à la fois les pourcentages, les conversions aussi. Donc oui, des ateliers, on peut en faire beaucoup. Et j'ai même créé aussi un escape game en CAP. Escape game, donc du coup en CAP sur l'utilisation des mathématiques où ils étaient bloqués au laboratoire. Il fallait absolument qu'ils sortent et qu'ils trouvent un antidote. Donc ça a beaucoup fonctionné aussi.
Excellent. J'ai une petite dernière question quand même. Si tu avais des choses à améliorer en fait par rapport à ton expérience d'aujourd'hui, ce serait autour de quoi ?
Alors, plusieurs choses essentielles. Donc, mon troisième, donc déjà, j'aimerais bien essayer d'intégrer un peu plus de classes inversées. Donc, classes inversées dans ma pratique, puisqu'on dit que les élèves de bac pro ne travaillent pas assez chez eux, mais il faut arriver à les faire travailler un petit peu chez eux, à gagner un petit peu en autonomie, tout en restant raisonnable. Donc, un petit peu de classes inversées, donc avec des visionnages de vidéos chez eux, et puis arriver à leur faire travailler à la maison des mathématiques, ça serait super. J'y arrive un petit peu, il y a encore une marge de progrès. Ensuite, j'ai des élèves qui aiment bien travailler avec l'enseignant malgré tout, qui ont besoin d'être assurés. Et donc cette année, en troisième, ce que j'expérimente en piste, ce sont des parcours de perfectionnement. Donc en troisième, les élèves ont le choix entre soit réaliser des ateliers autonomes, soit réaliser un parcours de perfectionnement où au moment des ateliers autonomes, l'élève peut choisir de revoir certaines notions qu'avec l'enseignant. Donc c'est vraiment un accompagnement individualisé qui ne dessert pas les autres élèves et au contraire qui permet à certains élèves de gagner en confiance et de revenir sur des notions qui ne seraient pas encore acquises. Et puis enfin, à Edgar Pisani, on aimerait développer une classe flexible, donc une classe dans laquelle on varie l'environnement, donc on va changer la posture de l'élève et la posture de l'environnement. Donc ça fait partie des pistes d'amélioration que j'aimerais envisager.
Ok, très bien, je te remercie Laure. Et voilà, et nous allons lancer notre roue. Est-ce que tu es prête, Laure ?
Oui, je suis prête.
Tourne, ça tourne. Ah, bon, c'est la question assez facile. Aimes-tu ton métier ?
Ah, j'adore mon métier. Pour la petite anecdote, donc avant de me lancer dans l'enseignement, j'ai travaillé dans la recherche sur les maladies infectieuses. Je pensais pas forcément faire de l'enseignement. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'adorais plus que la recherche, c'était l'accompagnement des élèves. Puis un jour, quelqu'un m'a laissé découvrir ce métier, me lancer en tant que contractuelle. Et je crois que dans ce métier, ce que j'adore, c'est créer. Et finalement, c'est quelque chose de pas très éthique, mais je vais le dire quand même, c'est faire de la R&D. On en fait toujours, en fait, de la recherche dans notre métier, mais auprès des élèves. Alors, c'est pas très éthique, mais pour autant, je crois qu'on en fait tous. Et oui, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, j'adore être au contact des jeunes et être utile, en fait.
Ok, c'est peut-être pas, je sais pas si on peut dire que c'est pas éthique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est peut-être ce qui anime en tout cas dans ce métier. Et s'il y avait en fait une thématique de podcast que tu aimerais bien écouter, ça serait sur quoi ?
Alors moi, j'aimerais beaucoup écouter sur l'enseignement explicite. Voilà, explicite ou explicité, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en œuvre aussi en mathématiques. Finalement, quand on a des exercices corrigés, on se rend compte que parfois, on s'approprie une méthode et que cet enseignement explicite, il est très utile en fait. Et c'est quelque chose qui est aussi très à la mode. Et je me renseigne dessus. J'ai des difficultés parfois à trouver des ressources. Donc pourquoi pas, si vous avez un podcast dessus, moi ça m'intéresse.
Eh bien super Laure, merci en tout cas pour ce moment. En fait, pris pour pas podcast et puis nous faire part un petit peu de ton expérience. Est-ce que tu as un petit mot auprès des collègues par rapport à ce que tu as fait pour l'instant depuis le début pour donner envie éventuellement
on fait déjà tous des choses super, donc il ne s'agit pas de tout refaire, il ne s'agit pas de tout revoir, il s'agit déjà de faire du tri dans ses pratiques et de regarder ce qui est efficace, ce qui l'est moins, et de continuer à interroger ses pratiques pour pouvoir faire évoluer l'école, tout simplement.
Merci Laure, en tout cas, d'avoir pris ce temps avec nous pour ce 4e épisode de Papodcast. La prochaine session sera autour de Capital, toujours avec une enseignante de maths et un enseignant de team à côté. Donc il y aura deux personnes la prochaine fois. Merci et à bientôt.
Au revoir.
Le lundi au soleil.